Vel et Marceau.
1, 2, 1.
Chose que je ne pensais jamais voir, un Denis Gravel en forme aujourd'hui. La semaine passée, il avait l'air d'un gars qui était passé sous... comment t'appelles ça, là, la grosse machine là, qui égalise l'asphalte, là? Le rouleau compresseur.
Roule, ouais.
J'avais l'impression qu'il avait passé en dessous d'un rouleau compresseur. Puis là, il est tout sourire.
Vendredi, j'étais un dead man walking. Tu sais, quand t'es pogné des sinus, mais du front à peu près jusqu'au poumon.
Jamais de mort.
Quand t'as pas de sinus au poumon.
Jamais de mort.
Quand hier matin, je me suis levé débloqué, là, j'avais l'impression d'être un nouvel homme.
T'as-tu pris des trucs pour ça? Y a-tu ta mouche de moutarde? Ou qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire vendredi passé? Ça a-tu fonctionné?
La ponce de gin m'a donné un feeling agréable, là, mais à boire, c'est comme boire du néocitran. Je pense que c'est bon pour la gorge, mais pas grand-chose d'autre.
C'est peut-être ça qui t'a guéri, Denis.
Il dit un feeling agréable. Ben oui, c'était du gin.
Ah, c'est ça. C'est ça. C'est plus le côté gin que le côté ponce.
Hey, c'est triste, là, mais j'ai déjà eu dans mon entourage quelqu'un d'alcoolique, là, un alcoolique notoire. Mm-hmm. Il avait besoin de son 40 onces à chaque jour. Puis certains soirs, les vendredis, samedis, il s'en allait en acheter un petit peu plus parce qu'à 40, c'était pas assez pour lui. Ce gars-là n'avait jamais eu la grippe depuis genre 40 ans. Puis quand il est rentré chez les alcooliques anonymes, il a dû avoir un suivi médical. Là, okay, parce que quand t'es alcoolique, tu peux pas arrêter du jour au lendemain, tu peux en crever. Quand il est rentré chez les alcooliques anonymes, ça a été extrêmement difficile pour lui de parler de ses problématiques. Ce qui faisait en sorte qu'il aimait plus parler des côtés positifs d'être alcoolique, comme quoi il était jamais malade.
Oh non, lui, il a bugué là-dessus.
Mais vraiment?
En même temps, je veux dire, on aurait pu dire, tu peux aussi être agréable en société, tes organes vitaux fonctionnent
oui,
mieux.
Oui, une espérance de vie.
J'espère qu'il y a eu un petit peu de répartie de la part de la personne.
Puis tu sais, c'était weird, on entendait souvent, tu sais, quelqu'un qui boit régulièrement puis qui arrête de boire, il a de l'air d'un gars chaud.
Mm-hmm.
Ben, c'est vrai, quelqu'un qui est en manque d'alcool a vraiment l'air d'un gars complètement saoul. Puis après, une fois que tu lui fais boire une tasse, il redevient comme normal.
Ça a l'air que c'est un des pires sevrages que tu peux pas subir, là. Même pire que certaines drogues dures, là, quand c'est l'alcoolisme pur et dur. Puis oui, il faut que tu y ailles avec une certaine attention. Puis tu sais, quand tu bois, tu gèles un peu tes sentiments puis tes émotions, puis c'est ce qui cause une partie du déséquilibre quand t'arrêtes de boire. Parce que là, t'es confronté à tes émotions alors que t'es habitué de les engourdir puis de les endormir. Puis ça devient quasiment un problème d'équilibre.
Oui. Puis nous autres, on disait que le jour de sa mort, il faudrait peut-être prévenir les pénicloutiers d'évacuer le secteur. Parce qu'on disait qu'il allait exploser. Mais aujourd'hui...
Ça, c'est ton chum, c'est ça que tu me dis?
C'est pas mon chum. Okay. C'était le père d'un de mes amis, mon ami qui est malheureusement décédé, mais avec qui j'ai gardé des contacts avec son père, bien entendu.
C'était comme c'est ton chum, pas besoin d'ennemis.
Mais c'est ça, on lui disait souvent, tu sais, quand un jour tu vas mourir là, chez les pénicloutiers, il faut qu'ils soient avertis là, pour d'évacuer la place.
Quelqu'un a écrit Ponce Gravel, puis ça me fait bien rire à l'aube du week-end pascal. Ponce Pilate, Ponce Gravel. Là.
Ouais, pas de pas... même.
Non?
Non.
C'est quel?
Jésus va-tu te condamner? 20.
C'est quel le prochain congé? Dans
ouais, c'est loin. C'est loin cette année.
Tu vrai?
Ouais.
Mais assez hâte d'écouter les films de Jésus, là.
Oui.
Qui vont passer à la télé, là.
Exact. All right. Hey, les séries éliminatoires pour nos enfants, ça a commencé. Il y a des petits moments dramatiques qui se passent. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Il y en a qui se ramassent en fusillade. Tu t'es ramassé en fusillade en fin de semaine. Moi, mon gars, hier.
Ouais.
Samedi, il joue avec son demi-frère, en fait, là, dans son équipe. Il a dit, papa, j'aimerais ça rester avec Emeric. On va passer la soirée ensemble. On va aller à cabane à sucre et tout ça. Fait là, moi, c'est la fin de semaine. J'ai mes gars. Puis là, je me dis, regarde, si j'avais son âge, je préférais être avec un de mes amis plutôt qu'avec le vieux père. Fait que j'ai dit, c'est beau, vas-y. Fait que, mais je me suis rendu quand même à l'aréna en Beauce, à Saint-Isidore, dimanche. Puis j'ai vu qu'il avait vu que j'étais là, parce qu'on se fait des saluts sur le banc. Là. Plus il vieillit, plus les saluts sont plus évidents à voir.
C'est juste un signe de tête.
Parce qu'il est gêné.
Un clin d'œil dans le casque.
Mais après la game, moi, ils ont perdu. Je me suis dépêché. Je suis arrivé au la porte, puis je voulais dire salut, parce que moi, j'avais ma propre game de hockey à Québec. Fait que j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Salut, Joshua ». Puis il m'a à peine regardé. Il était tellement déçu de la défaite.
Aïe.
Puis là, je l'ai rappelé hier soir pour dire « Là, t'étais-tu content que je sois là? » « Oui, mais papa, ça n'a pas de bon sens. On a perdu.
Il est avec sa mère, ça veut dire?
Il est avec sa mère.
Ils prennent ça à cœur, puis on prend ça à cœur aussi. Ben moi, oui. j'ai perdu le contrôle de moi-même en fin de semaine. Parce que...
T'es un gars assez réservé pourtant dans la vraie vie.
J'étais un gars assez réservé, mais là, on jouait en fin de semaine, puis si tu perds, t'es éliminé. Si tu gagnes, tu poursuis tes séries éliminatoires.
Puis on a vu, Denis, que t'es capable de devenir une autre personne dans certaines situations, donc quand t'as commenté la game boulevard avec nos auditeurs, t'es capable de devenir une autre personne.
Moi, une bonne game de hockey, c'est une bonne game de hockey, puis justement, la game boulevard, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été une fusillade, puis écoute, c'était dur de...
11e fusillade.
C'est comme une autre personnalité qui prend le contrôle de Denis. Là,
on jouait contre Québec Centre. Les équipes de Québec Centre, cette année, sont particulièrement fortes. Ils commencent en prenant les devants 2-0, puis on remonte ça 2-2. Puis là, ça devient 3-2, puis 3-3. Puis évidemment, quand mon gars a scoré le quatrième but, j'ai beuglé ma vie, je veux dire, comme si j'étais, je sais pas, en train de regarder les Bruins à la TV en séries éliminatoires. Là, c'est devenu 4-4. Il y a eu la période de prolongation. Puis après ça, c'est la fusillade. Puis tu sais ce que ça fait, hein? Ça retarde l'horaire d'une game de hockey. Ça veut dire que les deux équipes de hockey qui jouent après sont là, puis ils regardent la fusillade. Les parents de la game d'après sont dans les estrades, puis ils regardent la fusillade aussi. Fait que ça double, même ça triple la foule.
Vous n'êtes pas battu, là, j'espère?
Non, okay. Mais il y a une ambiance, puis il y a une énergie extraordinaire. Puis, tu sais, faut dire que c'était relativement satisfaisant d'éliminer une équipe de Québec Centre. Mais tu sais, tu vois des kids qui trippent, tu vois des kids qui ont de la peine. C'est rempli d'émotions, c'est rempli de positif.
Mais ils doivent perdre. Ils doivent perdre.
Et ça fait partie de la vie.
Exactement.
C'est pour ça que je dis que c'est que du positif. Oui. Puis tu sais, les parents, c'est sûr qu'on est émotif dans la victoire, dans la défaite, mais nous autres aussi, il faut gérer, il faut donner l'exemple à nos enfants aussi, tu sais. C'est des moments qui sont, écoute, extraordinaires. Puis moi, je disais à mon gars, j'ai dit, tiens, là, celle-là. Là. Moi, j'ai joué au hockey 5-6 ans quand j'étais ticu, là. Des games en fusillade, j'en ai jamais vécu une. Ce que vous avez vécu en fin de semaine, là, garde ça proche de ton cœur, dans tes beaux souvenirs. Puis là, ben, nos séries se poursuivent ce soir, puis on est dedans, par-dessus la tête. C'est le fun, c'est le fun.
Ouais, t'as-tu fait à ton gars le speech de Rocky Balboa?
Non, mais tu sais, on est...
Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde! Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence. Si tu la laisses faire, toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne!
Je sais pas ce qui m'inquiète, qu'il sache par cœur ou qu'il fasse peut-être un AVC, là.
Moi, j'ai la chair de poule. Présentement, j'ai la chair de poule.
Arrête!
Moi, j'ai une érection.
En t'écoutant toi-même faire le speech.
Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le fun parce que c'est tout le temps des bonnes discussions. Quand on revient dans le char après, une victoire, une défaite, moi, j'ai tout le temps mon petit compte rendu. Puis
c'est ça qui m'intéresse dans vos fins de semaine, les gars.
J'attends qu'ils soient prêts, tu sais. Quand tu bougonnes, bon, les arbitres, les joueurs, les coups de coude, ça. Quand t'auras fini de chialer, tu me le diras.
Ouais.
Puis après ça, on va se parler. J'ai mes petites notes de game, tu sais.
Puis des petites notes de
gars. Ah,
là, les gars,
alimentez-nous.
Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, il a perdu, toi, il a gagné.
Plus. Moi, j'aime ça quand il me parle des arbitres parce que ça me donne l'occasion de dire à mon fils, tu sais quoi? L'arbitre a le droit de se tromper. Toi, tu te trompes. Ton coach peut se tromper.
Exact.
L'arbitre peut se tromper aussi.
Il apprend aussi, lui. C'est un kid.
Exactement. Puis... bon, je sais que c'est dur pour toi, Josh. Ton père ne se trompe jamais.
Ah.
Mais tout le monde a le droit de se tromper.
Il y
a tellement de belles choses de la vie qu'on peut apprendre à travers un match de hockey avec nos enfants.
Ouais.
C'est le fun.
Dans la victoire comme dans la défaite.
T'as-tu demandé à la mère de tes enfants quelle discussion elle a eu avec Josh après, qui était comme même pas capable de dire salut?
Je pense qu'il parlait pas.
Ah ouais, ouais, OK. Puis toi, Denis, ça a été quoi? C'est la dernière fois que tu as parlé à ton fils. C'est quand il avait perdu, tu as donné une grosse leçon de vie. Là, il a gagné.
Ouais. Ben écoute, même dans la victoire, moi, j'avais vu quelques petites affaires, tu sais, puis je disais, telle chose, les replis, il faut que tu fasses attention. Essaye de faire un petit peu plus de passes puis de regarder autour de toi. Mais...
parce qu'il est capitaine, lui, de son équipe.
Oui, puis fondamentalement, juste dire, hey, fier de toi, garçon, grosse game. Tabarnouche, c'est le fun.
Ah, il est encore, encore ça.
On est allé au restaurant, on est allé fêter ça, les boys, les trois, puis ça a été une belle journée.
C'était quoi le resto de boys qui gagne?
Ah, écoute, eux autres, ça prend de la pizza, fait que on est allé au Boston à côté.
C'est vrai?
Ah, ben oui. Ben.
Ils devaient être contents. Nous autres, on a perdu. Le prochain match, c'est en fin de semaine, nous autres.
En boss encore?
Techniquement, ce serait le dernier, là. Fait que c'est ça. Après ça, c'est le décor. Okay.
Ben oui, c'est pas long. Hein. Il y a quoi? Il y a deux semaines de décor. On est allé magasiner ses pads puis son bâton de décaquer en fin de semaine. Le décaquer Chauveau. Oui. Déjà plein de kids, plein d'activités. Moses de belle place.
Mais ça a vraiment augmenté en popularité l'enfer. Chez les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que
ça coûte
c'est
moins cher
hier.
Que du hockey. Ouais. Tu sais, okay. Ça devient, je pense, l'alternative pour bien du monde, même l'hiver. Je
pas que ce soit juste le soccer, mettons?
Oui. Puis le hockey, ça reste notre sport préféré. On est des Québécois. L'équipement de hockey standard, écoute, en bas de 800$, là, équiper un enfant, tu t'en sors pas. Alors qu'au deck hockey, t'as besoin d'une paire de pads, t'as besoin d'un casque, d'une paire de gants puis d'un bâton, puis après ça, t'es correct.
Ouais. Moi, ça fait plus de 35 ans que je joue au deck hockey. La première patinoire ou surface de deck hockey qui a été bâtie à Québec était derrière le centre 5e saison à Beauport.
Okay.
Si tu prends l'aréna de Giffard, là, qui est maintenant rendue l'aréna Marc Simoneau, tu descends quelques rues plus bas, puis c'était là qu'était la première surface. Puis donc, ça fait plus de 35 ans que je joue à ça. Puis très longtemps, ce sport-là a été mon deuxième sport favori, mon premier étant le hockey. Puis aujourd'hui, je peux te dire que je pense que je préfère le deck hockey au hockey pour tout ce que ça implique. C'est moins long s'habiller. Dans la chambre après, c'est moins long aussi.
C'est sûr que tu prends une bière maintenant comparativement quand tu avais 12 ans.
Puis c'est un peu plus égal parce que dans des ligues de garage, tu en as tout le temps un qui va plus vite que les autres, tandis qu'au décaqué, c'est de la course à pied.
Ça va vite, hein?
C'est de la course à pied, c'est de la passe à sa palette, ça va extrêmement vite. Puis on a la chance d'avoir le DDLC ici à Chauveau, là, où ton fils était en fin de semaine. Qui est un super de bel endroit. Écoute, vraiment,
mais
vraiment
ça brasse,
bel endroit.
Le contact est plus respecté? Parce que ma soeur, elle joue, puis le nombre de bleus qu'elle a sur le corps, ça n'a pas de bon sens.
Ben, c'est parce que la boule pince, là, veut pas. Les boules oranges, là, pour avoir déjà snappé dans la face de quelqu'un, tu le regrettes.
Mais
vite,
elle revolait une couple de fois aussi. Là.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça brasse un peu, mais ça n'a rien à voir avec les contacts que tu peux avoir au hockey. Tu
as plus le contrôle de tes élans, de tes allées et venues. Tu n'es pas en patin, tu glisses pas, tu sais.
Exact. Mais bref, c'est un super de beau sport aussi, le deck hockey. Fait qu'on embarque là-dedans, là, printemps, été. Puis après ça, ben, ce sera une autre saison de hockey.
Parce que c'est un peu ça, l'égoïsme des parents. Puis ça, dites-le pas à mon gars, mais t'es déchiré entre « oui, on continue nos séries » ou « oui, on va avoir une fin de semaine de lousse avant le deck hockey puis le soccer », tu sais, fait que...
Mais les enfants, ça doit leur faire du bien un petit peu aussi.
Ouais. Je te dis que ça a été mou dimanche après-midi chez nous après le samedi de séries éliminatoires.
Pascal, on est rendu où au niveau des... d'Hydro-Québec dans la grande région de Québec. Là. Est-ce que l'électricité est revenue? On parle quand même d'une pluie verglaçante. Là. On parle pas de la tempête du siècle.
Mais c'était laid à matin.
Est-ce que la pluie verglaçante est plus lourde en raison des changements climatiques aujourd'hui
qu'elle
l'était là 20 ans?
On a commencé le show à 11h30 autour de 5000 pannes. On est rendu à 3051. C'est plus dans le Québec-Ouest là, que ça sévit, mais les équipes d'Hydro-Québec sont sur place. Je regardais aussi pour la province parce que c'est pas juste ici qu'on avait de la pluie verglaçante là, tout au long de la journée. Saint-Augustin-des-Monts, en passant, juste quelques mentions à faire pour ça. Et Portneuf a écopé pour le reste.
Mes observations du matin sur la route, 50% du monde qui déglace pas le char puis qui sont des dangers publics.
Je te pose ramasses la plaque sur ton char.
Ah, c'est l'enfer.
Je vous pose la question. Comment vous faites pour déglacer le toit de votre véhicule?
Moi, je fais chauffer le char.
Ouais.
Puis à un moment donné, je pogne des petits lousses, puis j'y vais
ça part
morceau
en plan.
Par morceau. Ben oui.
OK.
Ouais.
C'est juste parce que toi, vu que tu déneiges pas ta voiture, tu peux pas le tester.
Parce que ce matin, ce que j'ai fait, là, c'est que là, j'ai encore le grand caravane, là. Mon truck de mon oncle.
Ouais, c'est plutôt.
Et j'ai fait dégivrer la vitre avant, les côtés, j'ai été capable de gratter ça.
Uh-huh.
Mais là, c'est pas mon char. Je me suis dit, je vais-tu gratter sur le toit
du
grand caravane? Fait que j'ai mis la chaufferette dans le fond, j'ai embarqué sur l'autoroute dans l'espoir qu'il y a une galette qui parte pas, là.
Puis mais... est-tu parti à galette?
Non,
il a fermé les yeux, semblerait-il.
Elle est pas encore là, mais je roulais derrière un camion cube, puis le véhicule qui était en face de moi, là, qui était le plus près du camion cube, lui, il a mangé un morceau de glace directement dans la vitre avant.
Je n'ai vu des icebergs revoler ce matin ces routes comme ça se peut pas. Là.
Ouais.
Moi, dans ce genre de matin-là, là, j'ai trois autobus de retard sur le gars que je suis. Je prends pas de chance.
Les camions. J'aimerais ça l'adresser, là. Les camions de livraison de marchandises, peu importe quelle marchandise il y a dans la boîte. Habituellement, il y a une obligation, non?
De déglacer le top?
Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, mettons, pour que ça soit dangereux?
Ce qui peut arriver, oui, il y a des endroits maintenant, où ils peuvent déglacer, là, ils ont, c'est bien aménagé, mais ce qui peut arriver, c'est que le gars, il roule toute la nuit, là. Fait qu'il accumule justement ce verglas-là sur le dessus de la remorque.
Il n'a pas arrêté.
Puis à un moment donné, ben, la température change, puis il commence à avoir une petite ligne d'eau qui se fait entre le plafond puis la glace, puis ça part au vent.
Puis les camionneurs sont comme les automobilistes. T'as pas le temps, tu veux pas, et ainsi de suite. Ben oui, mais c'est la moitié du monde. Si je me fie à ce que j'ai vu ce matin.
Mais ça a changé dans les paradigmes sociétaux. Là, je veux dire, dans le temps, le monde faisait plus. C'est quoi, le monde faisait plus attention, il y avait plus de conscience?
Non.
Moi, je pense rendu là, c'est inconscient. Là.
C'était comme ça.
T'as une grosse vanne, puis peu importe les intempéries et où le sommeil que t'as eu, l'arrêt que t'as fait, il me semble que tu te mets à réfléchir, ça doit être plein.
Je pense que la majorité des camionneurs font vraiment attention. Là.
Absolument.
Mais si tu roules toute la nuit, tu te ramasses avec une couche de verglas, puis après ça, la couche de verglas à part. Je comprends pourquoi les gens peuvent être fâchés. Puis au même titre que le pont Pierre-Laporte va être à surveiller dans les prochaines heures.
Oui.
Il va y avoir encore des galettes qui vont partir,
deux
qui vont
fois
rester directement, qui vont tomber directement sur les automobilistes en bas. Ben oui.
Puis tu fais un sapristi là.
Mais je rêve du jour où on va être capable d'enterrer toutes les fils d'Hydro-Québec. Puis il y avait un haut dirigeant d'Hydro-Québec qui se prononçait à cet effet-là en disant que ça coûterait des milliards et des milliards. Mais pour ce qui est des nouveaux quartiers, on est capable d'ensevelir les fils dans le sol. Mais changer tout ça du jour au lendemain, là. Enterrer toutes les fils, ça serait épouvantable. Ça serait épouvantable, mais n'en demeure pas moins que l'élagage. Il y a eu énormément de retard dans les dernières années.
Oui.
Puis ils nous disaient, non, c'est les changements climatiques, c'est les changements climatiques. Puis les élagueurs d'Hydro-Québec disaient, Yann, ils sont à peu près 5 ans retard. On n'est pas capable de faire exactement ce qu'on devrait faire pour sauvegarder les fils, ce qui fait en sorte qu'on fait des endroits, puis après ça, on revient. Puis là, ben, c'est déjà en train de toucher au fil.
Ouais.
C'est pour ça que ça lâche. Là. C'est pas parce que le verglas, à cause des changements climatiques, est plus pesant. Là.
Mais là, ça, personne n'avait dit ça.
C'est
là.
L'entretien du réseau.
C'est toi qui faisais la joke là, au début du segment.
Oui,
là.
Mais je veux dire, c'est juste l'entretien du réseau, mais ils ont tellement mis tout le temps ça sur le dos des changements climatiques. Puis de l'autre côté, les jeunes nous entendaient, puis « Hey Yann, j'étais lagueur pour Hydro-Québec, on est en retard. » Ils ont-tu déjà passé chez vous, Hydro-Québec?
Oui.
Pour élaguer?
Une couple de fois, oui.
Hey, ils coupent pour 5 à 10 ans, Pascal.
Mm-hmm.
Fait que ton bel arbre que t'as, là...
Moi, ça me fait mal.
Tu veux garder les arbres, tu veux garder les fils. À un moment donné, il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent.
Oui, mais en même temps, toi, Denis... Non.
Quoi?
Non, mais tu regardes ton arbre, puis là, tu sais, il est comme une belle pointe de tarte, puis là, tu arrives chez vous, puis il y a comme une pointe de tarte qui a été prise. Là. Ça donne pas une belle job, ça prend une couple d'années.
Ben moi, j'en avais un qui était mort, qu'il fallait enlever, puis je l'avais signalé à Hydro-Québec, puis ça a été très rapide. Ils sont venus faire la job, puis ils l'ont tassé de là.
Il y avait un risque ou.
Oui, il y avait un risque.
Ah, ben, c'est
il y avait
ça.
Un risque.
Ouais. Hey, plein de choses à vous jaser. Je vais en parler ce soir avec Maître Bellemare, mais comment tu peux être accusé de conduite avec les facultés affaiblies?
Normalement, c'est que tu as bu avant.
Alcool,
drogue,
médicaments.
Oui.
Tu sais, mettons que quelqu'un a des maux de cœur et il prend 4-5 Gravol.
La fatigue aussi est considérée dans ça.
La fatigue.
Ça semble relatif.
Elle n'est pas aussi.
C'est juste qu'elle n'est pas capable d'être prouvée autant.
Elle
n'est
pas aussi évidente, effectivement. Moi, je plaide coupable pour la fatigue. Là. J'ai conduit très souvent fatigué, puis j'aurais donc dû prendre des siestes.
Tu as déjà cogné des clous?
Mais j'avais 20 ans. Ben oui,
ouais.
J'ai déjà pris le clou. J'avais rencontré... Pascal est là, fait que je peux en mettre. J'avais rencontré une cocotte à Trois-Rivières. Puis on avait été, comme on fait là, quand on a 20 ans, puis on a un nouveau couple, on avait
c'est
été
la
à Montréal.
On
avait été manger à Montréal. Puis
c'était
en,
ça, la mode?
En redescendant, oui. En redescendant, j'avais pogné le terre-plein sur la 20.
Y avait-tu les...
Les vibreurs?
Ouais.
Non, il n'y avait pas de vibreurs.
Mais ça, moi, mon ami est mort de même jeune. Là.
Ouais. J'avais pogné le terre-plein, puis je m'étais ramassé dans le gazon, puis là, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai pas d'affaire ici, puis j'ai réintégré la route. Mais à cause de la fatigue, j'étais pas en mesure de conduire.
Il y avait 19, il revenait de travailler, il avait fait une grosse semaine, il s'est planté.
Moi, c'était
drôle,
souvent, les shows. J'allais voir les shows à Montréal, puis je travaillais le matin très tôt. Fait que entre les deux, je dormais pas, puis je faisais de la route. Puis ça m'est arrivé une couple de fois. Tu sais, tu cognes des clous. J'ai jamais pris le clou, mais tu sais, tu pognes le vibreur un peu. Tu fais « wow, OK ».
Mais tu penses que c'est inoffensif, là, mais...
Ben non, c'est pas inoffensif.
Parce que là, ça m'est déjà arrivé de rêver. Ça m'est déjà arrivé de rêver.
De rêver au vol, hein?
Ouais. Puis de me dire « Hit! Tabarouette, je suis en train de m'endormir. »
Moi, je trouve ça dur à cause de c'est ça.
Ouais.
Mais il y a quelqu'un pour ça, là, tu dis « crime, c'est tellement stupide. »
Il y a un gars qui est un nouvel arrivant, là, de ce qu'on comprend. C'est un demandeur d'asile, devrais-je dire, qui avait travaillé toute la journée, assez fort quand même, plus de 15 heures de ce que je comprends. Après ça, il était dans un party.
Ouais.
Il n'a pas pris d'alcool, mais il est resté là jusqu'à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, il a pris son véhicule. Puis malheureusement, ben, il s'est endormi puis il s'est planté. ben, il a bénéficié d'une absolution conditionnelle en cour criminelle, mais il a été déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Eux, ils parlent de conduite dangereuse, là, mais c'est des conduites avec les facultés affaiblies. Il va devoir payer un 1 200$ au Centre jeunesse de l'Estrie, donc 1 200$, c'est un don. Il va devoir faire 20 heures de travaux communautaires, puis il va payer une amende et devra respecter une probation de 12 mois.
Je comprends que le juge voulait lui passer un message aussi en disant « T'es chanceux d'être dans un pays où on donne des deuxièmes chances. »
Mais je savais pas que c'était criminel.
Ben, ça devient criminel à partir du moment où t'as suffisamment de signes évidents que tu vas être fatigué au volant. Et dans son cas, après 15 heures de travail puis une nuit debout, ça fait beaucoup de facteurs. Là, mais ça reste une zone grise au niveau de la loi, puis j'ai très hâte d'entendre Maître Bellemare ce soir là-dessus, parce qu'effectivement, ça semble être du cas par cas.
Pour qu'on l'a achat d'avance, volant, là. Lui, il est très à l'aise avec les accusations.
Oui, hein?
Maître Bellemare, lui, les trucs là, d'alcool au volant, il n'y a aucun pardon pour ça.
C'est parce que c'est ta responsabilité quand tu prends le volant d'être en état de conduire. Ça inclut la drogue, ça inclut l'alcool, c'est supposé d'inclure la fatigue aussi.
Une condition au même titre que de ne pas aller travailler sous. C'est une responsabilité.
On pourrait même extrapoler. Là. Mettons que ta blonde vient de te laisser, puis qu'émotivement, tu n'es pas en état de conduire. Ben, tu es en train de faire de la conduite dangereuse aussi. Ta tête n'est pas là.
Tes facultés affaiblies.
T'as les facultés affaiblies par le dumping. T'sais. Mais c'est ça pareil.
Mais c'est vrai, là. C'est complètement rationnel ce que tu veux dire.
Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en mesure de gérer nos émotions? M'aller faire un tour de char. Fait que c'est un peu paradoxal. T'sais. Moi, c'est un truc que j'ai. Moi, quand ça va pas, m'aller faire un tour de char. Oui. J'ai changé ça par une marche
mais
au fil des années.
Tu sais, le même chemin que l'on prend à tous les jours, combien de fois est-ce qu'on a la prise de conscience de ce qu'on est en train de faire?
Ouais.
Fait qu'imaginez que la fatigue.
C'est ça.
Combien de fois, moi, j'arrive à la maison, puis je suis allé par défaut, par habitude, puis je me rappelle pas ce que j'ai vu, tu sais?
Chauffeur de camion qui nous écrit, nous autres, il dit, nous autres, c'est nouveau pour les véhicules, là, les voitures, mais nous autres, on peut être accusés aux criminels si on dépasse notre log pour fatigue par négligence criminelle s'il y a un accident.
Les camionneurs,
c'est... Le nombre d'heures, puis ça, ils sont obligés de suivre ça maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Mais qui plaide non coupable à n'avoir jamais conduit fatigué?
Ben, je pense pas.
Hey, je me souviens d'une fois où on allait voir un show à Montréal, puis le char était plein, là. Je veux dire, on était 4-5, puis moi, j'haïs ça me faire conduire.
Ouais.
Fait que c'est tout le temps moi qui chauffe. J'exige de chauffer, puis j'avais de l'orgueil mal placé. Je suis fatigué, je suis brûlé, mais je vais chauffer pareil.
Ah,
de l'orgueil mal placé, c'était niaiseux, puis je me souviens d'avoir cogné des clous d'un
char.
Tiens
ma bière, c'est moi qui chauffe.
T'sais, tout le monde dort dans le char. C'est ça. Je refuse que mon chauffeur soit sobre.
mais c'est nouveau, mais je savais pas. J'en parlais tantôt avec Pascal, Denis, de plus en plus de locataires qui se plaignent que leurs propriétaires d'immeubles ont décidé d'augmenter leur loyer, certains 100$ par mois.
Hey, c'est tough, là.
Tu veux-tu me faire une promesse?
Laquelle?
Quand tu vas voir le maire Marchand, là.
Oui.
Ben, d'un, il faut l'enlever.
C'est
la semaine prochaine?
Semaine prochaine, on va avoir de la visite pas
si
mal.
Si on l'enlève pour quelques jours, ça peut être mal perçu par le SPVQ? Parce que là,
sûrement.
J'en aurais peut-être besoin pour une revanche à Saint-Isidore. Fait que là.
tu parles de hockey, là.
Ouais, c'est ça. J'ai acheté un sac de jute. J'ai acheté du tape gris.
Moi, je ferais juste y demander directement.
Oui?
Ouais. Okay. Ouais, je pense que c'est une meilleure approche.
Parce que sinon,
à Saint-Isidore, ils ont vraiment kidnappé le maire pour l'amener avec nous autres.
Ouais. Si tu kidnappes le maire, je suis sûr que tu n'écriras pas son livre plus tard. Pas mal sûr.
Non, il faut être ami.
Faut être en meilleure relation que ça.
Faut avoir écrit des billets amis.
Yannick est prêt à, honnêtement, lui demander en premier, mais s'il dit non, il est prêt à avoir une solution.
On le kidnappe, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais tu peux-tu demander au maire qu'est-ce que ça a comme impact chez lui quand il voit que des propriétaires d'immeubles sont obligés d'augmenter le prix des loyers par mois par appartement en raison du nouveau rôle municipal?
Mm-hmm.
Parce que lui, il va probablement te dire, comme porte de sortie, là, on se compare aux autres villes.
Oui.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'est-ce qu'on peut se comparer aux autres villes? Oui, on peut se comparer aux autres villes, mais même on est plus performant, M. Gravel.
Puis il va vraisemblablement amener des chiffres de construction de logements sociaux aussi. Ouais. On ne peut pas tous aller vivre dans des logements sociaux.
Ben, c'est parce que ça va être la finalité, Denis.
Ouais.
Ça va être la finalité. À un moment donné, il y a une bonne partie des gens qui nous écoutent qui vont se dire, ben moi, j'ai plus les moyens de vivre dans un 4,5 à 1500, 1600, 1700 piastres par mois.
On serait surpris. 418-971-1021. Combien de personnes, en toute honnêteté, sont à 100$ de scraper le budget du mois?
418-971-1021. J'ai parlé avec un propriétaire d'hôtel que tu connais.
Mm-hmm.
Avec le nouveau rôle municipal au commercial, par chambre, c'est 4000$ d'augmentation.
Tu sais...
Ça paraît quand la chambre est déjà 500 puis que c'est trop élevé. Puis tu sais, je dis à Yannick tantôt, ce qui me fascine là-dedans, c'est que le maire Marchand s'est fait élire avec des objectifs assez clairs, dont itinérance zéro, que c'est impossible
ouais,
à atteindre.
Ouais, ça marche pas.
Mais quand tu regardes la roue, là, itinérance zéro, bon, c'est des gens qui, pour plusieurs, n'ont pas de logement et la capacité de le payer. Parfait, tu continues. Là, tu te dis, bon, ces gens-là se ramassent dans la rue, ça crée des problématiques. Mais si tu remontes, là, comment c'est créé pour ceux qui sont pas capables de se loger? Logement trop cher ou pénurie de logement, ouais. Incapacité d'avoir quelque chose à se loger à 40 heures semaine de job. Mettons, allons-y avec le salaire minimum. Est-ce normal qu'à Québec et au Québec, quelqu'un qui travaille 40 heures semaine au salaire minimum soit pas capable de se loger de façon convenable et non dans un vieux taudis dégueulasse et ou pas se loger du tout? Là, tu dis non. Okay.
Je pense
revenons à l'objectif du maire. Il est en train de le créer là, avec ses hausses de taxes.
Puis je pense que c'est une nouvelle clientèle, une clientèle qui a déjà existé, mais depuis 5 ou 6 ans, j'ai l'impression que ce que tu viens de décrire, ben, c'est une clientèle qui est revenue à la bouchée généreuse. C'est pas du monde qui sont sans emploi. Non. C'est du monde qui travaille, mais qui n'arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue aussi et qui travaillent. Ça fait drôle à dire, mais dans les dernières années, il y en a eu des gens qui avaient tout simplement pas de recours, pas de moyens, plus capables de payer le loyer. Ils ne savent plus où aller, puis ils se ramassent littéralement dans la rue.
Un 3,5 à 1,200, là.
Ça commence à être cher.
Là, mettons 3,5 à 1,200, tu te dis t'es peut-être 2.
Mais le point que je veux amener, c'est que je regarde beaucoup. Je veux savoir ce qui se passe dans ma ville. Je fais de la radio locale, puis je veux savoir ce qui se passe dans ma ville. Fait que je regarde beaucoup sur les pages Spotted, puis je trouve ça cruel, moi, des augmentations de loyer de 100$, 200$, 300$. Je trouve ça extrêmement cruel. Mais très souvent, ça tombe sur le dos du propriétaire de l'édifice à logement. Alors qu'il y a de ça quelques mois, on s'en était parlé sur la page Spotted Val-Bélair, il y a un propriétaire qui a eu son nouveau rôle municipal qui dit moi, pour que ce soit aussi rentable que 2024, je devrais augmenter mon loyer de 300$. Mais par locataire, par mois. Mm. Mais dis-tu comprends que je ne peux pas faire ça? Mais de voir que les gens sur les Spotted ne se rendent pas compte que c'est en raison de la ville qu'il y a des augmentations de loyer, là,
puis majoritairement. Est-ce qu'une ville pourrait faire attention à cet aspect-là en particulier? Dans une situation, dans un contexte où les gens, un, ont de la misère à arriver, deux, il y a de plus en plus de gens qui ont tout simplement plus les moyens de se nourrir ou de se loger. Et on va se le dire, là, tout le monde est pogné à la gorge, puis tout le monde va blâmer l'étage au-dessus de sa tête.
Ouais.
Mais en même temps, c'est des gens qui ont littéralement... On aurait tous besoin d'un break, mais dans ce temps-là, ceux qui sont les moins nantis puis ceux qui sont pognés justement dans des situations à logement comme ça, c'est eux autres qui ont besoin du break en premier.
Puis mais... ceux qui chicanent, ben, c'est locataire-locataire parce qu'ils comprennent pas c'est quoi le rouage en arrière. Mais ça, je veux dire, à un moment avant que ça rentre à la ville puis qu'il y ait du monde qui vont se déplacer au conseil de ville pour dire « Monsieur Marchand, là, vous êtes en train de créer des problématiques à Québec. » Pour financer quoi? Le RTC? Les pistes cyclables déneigées.
Des mini-maisons pour itinérants.
Est-ce que c'est vraiment des projets qui se valent pour la hausse de taxes?
C'est drôle que tu abordes ce point-là parce que j'ai eu une pensée pour les fonctionnaires de la CNESST.
On a pensé pareil à matin.
Ils s'en vont de Saint-Roch parce qu'ils sont parce qu'ils ont des problématiques avec les itinérants.
Oui.
Ils vont réintégrer le quartier général à d'Estimauville. Puis dès qu'ils vont mettre les pieds là avec leurs valises, leurs sacs, leurs chars, ben ils vont être accueillis par les itinérants qui vont vivre en mini-maison à côté de leurs bulles. Je ris, mais c'est pas si drôle.
Quatre maisons d'itinérants qui vont être bâties juste à côté du bureau de la CNESST. Puis regarde, ici, c'est Robert Gifford.
Mm-hmm.
Puis en face de Robert Gifford, c'est la Canardière. Juste l'autre côté de la rue, à droite, là, c'est situé en face de l'ancien Wilco. En fait, là, l'ancien Wilco est là. Puis ils ont mis la bâtisse carrément là. Puis les itinérants vont être ici.
Je suis obligé de te dire que logistiquement, c'est probablement le meilleur spot. Tout est à côté. Mais c'est sûr que pour les employés qui fuyaient Saint-Roch parce qu'ils n'étaient plus capables de vivre la mixité, ben ils viennent de l'avoir dans le pif. Là.
Ouais. Moi, j'ai un peu de misère avec le concept des mini-maisons, là, des unités de mini-maisons éloignées les unes des autres. Moi, j'aurais fait une belle grosse bâtisse avec des petites chambres, avec une toilette inclue, puis facilement nettoyable. Puis tu mets ces 200 personnes-là là-dedans. Juste 4 unités, ça va servir à quoi? Là,
ben, je pense que c'est un essai. Puis si ça marche, ils vont en faire plus. C'est de voir si ça fonctionne puis comment ça peut fonctionner. Puis de ce que je comprends, c'est vraiment pour des gens en transition. Tu sais, c'est pas des gens qui vont rester là 2 ans. Là. C'est des gens qui vont rester là un mois et demi avant d'être en mesure d'aller plus loin. Parce que les gens qui vont se ramasser dans ces mini-maisons-là vont être référés par les organismes.
Je comprends. Mais ça le dit déjà dans la... ça le dit pas dans l'article. Puis je suis pas sûr que tout le monde est au courant de ça. Mais au-dessus de l'Aube-Rivière.
Oui.
Il y a des loyers supervisés qui servent à la clientèle de l'Aube-Rivière qui désire s'en sortir, puis ils montent sur les étages en haut, puis les gens habitent là.
Ouais.
Ben, je veux dire ça.
Je présume que ça doit déborder, par exemple.
Oui, mais c'est formidable.
C'est sûr.
Parce que ces gens-là sont tous réunis au même endroit, sont pas séparés, il n'y aura pas de problématique. Là, des petites maisons unitaires comme ça, bon, on nous dit que ça sera surveillé. Mais c'est comme tout, là. Ils nous disent qu'au centre-ville, c'est surveillé, puis on est obligé de mettre des agents de sécurité pour accompagner les fonctionnaires à leurs véhicules.
On pourra justement poser la question directement aux employés de la CNESST, vu qu'ils auront vécu les deux. On va lui demander c'est quoi qui est le moins pire, c'est Saint-Roch ou d'Estimauville,
finalement. Oh boy! Alors que Robert Schiffard est à côté, là.
Juste à côté!
Juste à côté, puis il y a des locaux vides, là, puis on a logé des gens là pendant des décennies.
Yann, on se rapproche tranquillement de ton objectif.
Fait quand même une couple d'années, je vous en parle. Là. Peut-être qu'un jour... je deviendrai maire de la ville de Québec et je réaliserai ça.
Est-ce que tu nous annonces quelque chose qui t'intéresse là-dedans?
Je vous le souhaite pas. J'en reviens.
Salut.